ce texte, en fait, qui s'intitule « L'économie politique de la culture et de la communication » de Nicolas Garnham, « Itinéraire d'une approche matérialiste historique vigilante ». Ce texte est justement pour le troisième tome de l'ouvrage « Matérialisme et culture », »,« Matérialisme au pluriel »,« Matérialisme et culture », un ouvrage qui aura bientôt donc déjà trois tomes et qui a pour ambition de recenser les apports de différentes chercheuses et différents chercheurs dans ce domaine. Et ce numéro 3, si ça n'a pas changé en cours de temps, est dirigé par un de tes collègues, je crois, à savoir Michel Sénécal, avec Christophe Magis et Fabien Grandjean chez nous au CEMTI. Et donc voilà, donc ça c'est pour vous prévenir que le texte sur lequel je vais m'appuyer, je vais essayer de rester assez étroitement en appui sur ce texte aujourd'hui. Vous êtes un peu des cobayes, et donc voilà, ça tombe bien qu'on ait un peu de temps ensuite pour en discuter, puisque comme il est beaucoup trop long par rapport à ce qu'il devrait faire pour le bouquin, peut-être que vous pourrez m'aider à voir ce qu'il faut éliminer, si tant est qu'on peut tout aborder là dans le cadre de la séance. L'autre point que je voulais simplement préciser en guise d'introduction, c'est que, bien évidemment, la plupart de la bibliographie sur laquelle je me suis appuyé, là, de Garnham et puis d'autres chercheurs qui ont orbité autour ou alors qui se sont confrontés à ces approches, la plupart de cette bibliographie est en langue anglaise. Et donc pour la fluidité, pour l'aisance, là, j'ai tout traduit en français. Voilà. Donc les traductions, hormis deux, trois tout petits extraits, les traductions sont de moi. Donc là aussi, je vous demande un peu d'indulgence. Bon, j'ai essayé de... Dans une autre vie, auparavant, j'ai fait un peu de traduction. C'est un méchant métier, je trouve, mais... Voilà, simplement pour la fluidité, pour pas qu'on ait à passer d'une langue à l'autre. Je tiens à le préciser. D'abord, première petite précision. Évidemment, j'ai dû faire des choix, hein, par rapport à la bibliographie entière de Garnham, puisqu'elle comprend une douzaine de livres, une quarantaine d'articles, autant de chapitres d'ouvrages, et puis une production intellectuelle importante aussi dans le cadre de rapports, mais aussi dans le cadre, je dirais, de production orale, puisque Garnham a participé à de nombreux débats publics au sein d'institutions telles que la BBC, la British Film Institute, la Greater London Council, dont on reparlera, et évidemment aussi en tant que conférencier, en tant qu'enseignant à l'université de Westminster. Donc, évidemment, je ne vais pas essayer de retracer l'ensemble de son parcours ni de ses apports, mais il me semble important de donner un bref aperçu de ce parcours un peu atypique. Puisque Garnham est passé effectivement par le terrain de la production culturelle, et il me semble que c'est important de le souligner, avant de se retrouver professeur, puis professeur émérite à l'université de Westminster. Alors quelques mots sur son parcours personnel, je dirais, éducationnel. Bon, il a eu une formation dans un des collèges, je dirais, un des prestigieux collèges britanniques, Winchester College, et ensuite il est passé à l'université de Cambridge. Donc on pourrait tout à fait, pour ces raisons, en tout cas, le considérer comme un pur produit de l'élite intellectuelle britannique. Mais ce qu'il faut, à mon avis, souligner, ce qu'il souligne lui-même dans un article qu'il intitule « A Personal Intellectual Memoir », c'est méconnaître le caractère non conformiste de Winchester, L'influence de l'historien socialiste R.H. Tourney y était très importante, de même que Cambridge, là où il se trouvait, c'est-à-dire la School of English de Cambridge, c'était une des facultés de Cambridge qui, je dirais, refusait, qui était le plus obstinément en opposition à cette, toute une tradition d'études littéraires décontextualisées de l'environnement social. Et du coup, était vigoureusement opposé, notamment à tout ce qui se faisait du côté d'Oxford. Et c'est là, notamment, que dans cette School of English de Cambridge, c'est là que Garnham va être confronté aux travaux de Leavis, et puis, bien sûr, à d'autres travaux qui vont laisser une marque durable, à savoir ceux de Richard Hogarth et de Raymond Williams. Alors, ces études vont le conduire au cours des années 60 à la BBC, où il occupe un poste de monteur et réalisateur de films télévisuels. Et à propos de, de cette expérience dans la BBC, Garnham a affirmé « Il était impossible d'exercer là sans être intensément conscient de l'impact du contexte politique et social plus large sur la culture institutionnelle, c'est-à-dire la culture institutionnelle propre à la BBC. » Alors, je reviendrai à ce point plus loin. Mais ce qui est important, c'est qu'il s'est impliqué au sein de la BBC et puis par ailleurs en tant que critique amateur et producteur amateur dans le domaine cinématographique. Et en fait, c'est par ce biais-là qu'il arrive au début des années 70 à la Polytechnic of Central London, donc qui est l'ancêtre de l'Université de Westminster. Et donc, c'est là qu'il va donner des cours, il va être chargé de cours de filmmaking and theory. Dans les premiers cours qui ont donc une visée plus pratique, même si, bien évidemment, il y a des éléments là théoriques, j'y reviendrai plus tard, notamment dans des débats qu'il oppose à des tenants de la revue Screen à l'époque. Alors, c'est là, à la Polytechnic Central London, qu'il va participer en 73-75 à l'élaboration des toutes premières formations universitaires en Media Studies, hein, donc à la même époque que... Alors, je ne connais pas très bien l'histoire institutionnelle canadienne ou québécoise, mais c'est une même époque en France, du moins, puisque là, c'est en 75 que les sciences de l'information et de la communication... c'est l'année qu'on date habituellement, la naissance de cette discipline ou interdiscipline. Et donc, il va participer là à la mise en place de ses premières formations avec l'ambition explicite à cette époque, je le cite à nouveau, de déjouer le processus inconscient de socialisation conduisant les professionnels des médias vers des pratiques et des pensées routinières. Donc, il faut essayer de mesurer, là, peut-être la distance qui nous sépare de cette époque. Alors, je ne parle pas forcément pour ici ou pour l'université, le groupe de recherche dont je proviens, mais plus largement sur le domaine de Media Studies ou de Cultural Studies, j'y reviendrai. On est tout à fait, bien évidemment, très clairement dans un objectif de pratique pédagogique oppositionnelle, alternative. Hein, dès le début. Alors, ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que Garnham a été, durant ces années 70 et jusqu'au milieu des années 80, un compagnon de route du Labour Party. Il est l'auteur d'un pamphlet aujourd'hui introuvable, hein, qui s'intitule, en français je peux traduire, c'est tout aussi simple, « Révolution ou réforme cul-de-sac jumeaux, twin cul-de-sacs en anglais. Ce pamphlet, j'ai eu beau chercher, j'aurais beaucoup aimé mettre la main dessus, à tel point que j'en ai rêvé. Hein, il y a quelques nuits, j'ai rêvé que je lisais ce pamphlet. Je me suis réveillé, d'ailleurs, au milieu de la nuit, à 3 heures du matin, en notant les morceaux de ce pamphlet introuvable que j'avais trouvé, qui sont bien entendu fabrication pure et simple. Mais voilà, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à côté de cette pratique culturelle, à côté de cette pratique professionnelle et à côté de cet engagement-là de plus en plus significant dans le domaine académique, il y a aussi une participation au sein de débats politiques nationaux. Et en 1983, Garnham va être, il va être détaché de l'université de Westminster pendant une année entière, et il sera détaché auprès du GLC, du Greater London Council, qui était en fait, en quelque sorte, la mairie de l'agglomération de Londres, mairie qui était alors dirigée par Ken Livingstone, qu'on appelait Red Ken. Donc, en fait, il faut remettre ça dans le contexte historique, qui est le contexte du thatcherisme, du début du régime là, mis en place par Margaret Thatcher. Et le GLC, à cette époque-là, sert de rempart contre les politiques néolibérales mises en place par Thatcher à cette période. Et donc, on est vraiment dans un lieu d'affrontement politique important. Et d'ailleurs, le GLC sera tout simplement supprimé hein, en tant qu'institution. Thatcher supprimera la mairie de Londres 3 ans plus tard et le remplacera par une commission nommée par le gouvernement et un ensemble d'arrondissements. Mais donc, cette structure-là dans laquelle Garnham travaille un temps est tout simplement dissoute. Voilà. Alors, à côté de cela, bien évidemment, c'est surtout de cela que je vais parler aujourd'hui, c'est la production intellectuelle de Garnham. Alors, je le disais en introduction, à savoir qu'il y a une pléthore de travaux. J'ai souhaité, moi, pour ce texte et pour l'intervention d'aujourd'hui, donc, retenir une perspective dual. Alors, premièrement, je pars de l'hypothèse que les travaux de Garnham s'inscrivent dans un prolongement de ceux de Raymond Williams, notamment les travaux pionniers qu'il va mettre en place à partir de la fin des années 70, son analyse d'une économie politique de la communication, des médias de masse dans les sociétés capitalistes avancées. Hein, je pense qu'il faut le préciser. À cette époque-là, c'était peu précisé dans ses propres textes ou ailleurs. Mais bien évidemment, Garnham se concentre, focalise son analyse sur la situation en Amérique du Nord, en Europe de l'Ouest, et dans une moindre mesure dans l'Asie du Nord, dans l'Asie du Nord-Est, autour du Japon, de Corée. Et donc, ce n'est pas un travail qui envisage, à proprement parler, les conditions particulières Nord-Sud, l'Afrique subsaharienne ou l'Amérique latine, beaucoup moins. Alors, c'est à partir donc de ce socle, je disais, des travaux de Williams, qu'il aborde la production, l'échange et la consommation de biens culturels et de services de communication. Et c'est à partir de ce socle de Williams aussi qu'il prend garde d'emblée à éviter, je dirais, cette habitude, cette mauvaise habitude qu'on a de séparer le matériel et l'immatériel. Hein, de séparer du moins abstraitement ces deux dimensions, j'y reviendrai. Alors, cet héritage matérialiste spécifique hein, de Williams, il la combine avec d'autres apports européens, notamment. Garnham sera l'un des premiers, des plus importants passeurs de la sociologie de Bourdieu en Grande-Bretagne et au-delà dans le monde anglophone. Il est également un lecteur et un contradicteur par moment, mais en tout cas, il s'inspire beaucoup aussi des travaux de Habermas. Pour ma part, j'insisterai moins sur cet apport-là. Je pourrais vous expliquer un petit peu pourquoi. Mais il est aussi, quand je parle d'héritage européen, il est aussi lecteur, ça se voit hein, très clairement, des apports de l'école de Francfort, hein, d'Adorno, de Horkheimer. Et il me semble qu'il en a j'essaierai de montrer pourquoi, une lecture qui est peut-être plus nuancé, plus habile que certains autres apports de l'économie politique, de la communication et des industries culturelles. Voilà, donc là, ça c'est le premier point, c'est-à-dire cette première direction que je vais essayer d'aborder, à savoir Quels sont ses apports pour une analyse en termes d'économie politique de la communication de masse des industries culturelles? Et puis, comment est-ce qu'il aborde la question des liens entre les relations de production matérielle étendue au niveau de la société dans son ensemble et la sphère idéologique? Et réciproquement, celle de l'efficacité ou de l'effectivité de production culturelle ou de production idéologique vis-à-vis de ces rapports de production dominants. Alors, je cite Garnham, hein, pour encore clarifier encore ce premier axe, ou du moins peut-être justifier ce premier axe-là que j'ai choisi. Garnham explique dans ce texte Personal Intellectual Memoir, il dit: avec le bénéfice du recul, je vois maintenant que mon travail a été dominé par un thème ou un intérêt surplombant, la relation entre la production intellectuelle et artistique et la société plus large, à la fois en termes de cause et d'effet. Dans les années 1960 et 1970, ceci était conçu comme le problème de l'idéologie et la métaphore base-superstructure, bien que, comme nous le verrons, je n'ai jamais été très à l'aise avec cette manière particulière de formuler le problème. Donc, on verra quelle proposition Garnham a formulée pour, on va dire, aller au-delà peut-être de cette métaphore base-superstructure, ou du moins tenter de la déminer. Ce sera la seconde partie de mon premier point. Deuxième point, sur lequel j'espère que j'aurai suffisamment de temps, je vois pas trop l'heure passer. Deuxième point, ce que je voudrais essayer de montrer à partir des travaux de Garnham, c'est que il s'est engagé dans de nombreux débats et donc dans des discussions, des controverses aussi théoriques, aussi des discussions publiques. Et il n'a eu de cesse de condamner ce qu'il perçoit comme les limites d'une approche qui se coupe artificiellement des autres sciences humaines et sociales, hein, d'une approche qui serait purement celle des media studies ou des cultural studies ou de la communication studies, et donc d'une approche qui se recroquevillerait, selon lui, sur l'étude de pratiques culturelles et de mass media abstraits des relations socio-économiques et de leurs conditions historiques. Et donc, c'est à mon sens, c'est un des points clés là, dans les controverses qu'il a pu avoir, qu'il s'agisse, j'essaierai de revenir sur ces controverses avec les cultural studies, avec les tenants de la notion de société de l'information, ou encore avec des auteurs s'inspirant ou se déclarant du postmodernisme. Ou des tenants du paradigme des industries créatives. Voilà, j'essaierai de montrer comment il y a une continuité en fait chez Garnham dans ces différentes prises de position, prises de bec. Et puis, j'espère avoir le temps aussi de montrer, c'est la dernière partie, le deuxième aspect là, de ce second axe, comment ces recherches donc menées sur une quarantaine d'années, comment cette perspective-là, elle conserve une forte valeur explicative à l'heure de ce que certains appellent la révolution numérique ou l'ère du numérique. Voilà, donc deux sections. Je vais tout de suite essayer d'avancer parce que je vois que l'heure tourne.
Non, on n'est pas à un quart d'heure près. Hein.
Ouais, bon, bah, ok, impeccable. Alors, premier point, donc je l'ai intitulé dans ce texte, les principaux apports de Garnham pour l'économie politique de la communication et de la culture. Et je voudrais dire quelques mots un petit peu des ressorts de son analyse pionnière, hein, du capitalisme, des industries, de la culture et de la communication. J'essaierai de passer là-dessus assez rapidement, mais ce qu'il faut, à mon avis, saisir, c'est que la période dans laquelle Garnham est à Winchester, ou ensuite à Cambridge, et puis là où il démarre dans les années 60 son activité productive au sein de la BBC, ça coïncide à l'époque de la mise en place de l'État-providence, hein, de Welfare State en Grande-Bretagne. C'est une époque aussi dont on trouve des traces dans le fameux et très mal traduit, on trouve au niveau du titre Culture du pauvre, The Uses of Literacy de Hogarth, où on voit très bien finalement ces luttes culturelles entre, d'une part, d'aspiration à l'autonomie de la classe ouvrière britannique, d'autre part, la puissance de l'élite culturelle anglaise à travers notamment des institutions telles que la BBC, et puis d'autre part, l'arrivée massive d'importations de nouveaux produits culturels, notamment d'Amérique du Nord, mais de nouveaux produits culturels, et c'est ce qu'on voit chez Hogarth aussi, qui sont très souvent adaptés, réadaptés par et pour le terrain britannique, notamment à partir de la deuxième moitié des années 60. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut aussi voir qu'il a existé. Alors, Garnham cite régulièrement l'historien Asa Briggs, qui est en réalité un historien de la période victorienne, mais que l'on songe à Briggs ou à Hogarth ou à Williams, il a existé à ce moment-là, disons, la vision d'une alliance possible entre les institutions publiques de l'État britannique et cette aspiration d'autonomie ou de résistance des classes populaires. Et il me semble que c'est dans ce contexte-là finalement un certain espoir en l'État, un certain espoir en une solution étatiste, statiste, permettant de garantir une démocratie culturelle, une diversification entre guillemets culturelle plus grande, prend racine aussi dans ce que certains ont appelé le mirage du socialisme britannique, hein, pour citer notamment une biographie de Aneurin Bevan, et un mirage qui était bien évidemment des espoirs dans un socialisme qui allait bien évidemment du côté de la production matérielle, la nationalisation des chemins de fer, etc., de l'outil industriel, mais aussi du côté d'une démocratisation de l'enseignement, de l'éducation et aussi au niveau culturel. Donc il y a une importance là accordée, je dirais, à l'État en tant que recours, en tant que garant d'une solution oppositionnelle à cette arrivée massive des industries culturelles d'Amérique du Nord. Ce qui distinguerait de façon fondamentale, me semble-t-il, les apports de Garnham autour de cette analyse pionnière du processus d'industrialisation de la culture, et c'est un processus qui, bien évidemment, est engagé depuis plus d'une centaine d'années, là au moment où Garnham, en Grande-Bretagne, pose ses travaux pionniers là dans les années 70, ou en France l'ouvrage Capitalisme et industrie culturelle qui sort en 1978. Ce qui distinguerait l'approche de Garnham, me semble-t-il, c'est la perspective historique. Une perspective historique qui envisage d'emblée l'industrialisation de la culture comme un processus graduel, contradictoire et non abouti. Et alors il y a cette idée, cette phrase très simple dans l'article Contribution to a Political Economy of Mass Communication, of Mass Media, donc de 79. Cette phrase est de dire que finalement l'objectif de cette économie politique est d'élucider ce que Marx et Engels entendent dans l'idéologie allemande par contrôle des moyens de production mentale. Et ce faisant, Garnham reconnaît la primauté, ou plutôt l'antériorité, d'un mode de production culturelle basé sur la soumission directe de producteurs culturels spécialisés, ce que Marx appelait les idéologues. Alors, Garnham reconnaît par ailleurs que ce phénomène est encore bien présent, hein, notamment sous la forme d'une, je cite, d'une menace omniprésente pour tous ceux qui travaillent dans les médias, la perte de son emploi. Toutefois, il précise aussitôt que le contrôle croissant des moyens de production culturelle par la classe capitaliste constitue une seconde étape dans le processus d'industrialisation de la culture qui se superpose à la première plutôt que de s'y substituer. Et là, l'idée, c'est que le capital contrôle les moyens de production culturelle, en ce sens que la production et l'échange de marchandises culturelles devient la forme dominante de la relation culturelle. Donc, c'est cette étape-là, si vous voulez, que par ailleurs Bernard Miège, étape à laquelle Miège fait référence dans l'ouvrage « Capitalisme et industrie culturelle », lorsque Miège a cette formule assez intéressante de dire « l'ère des danseuses s'achève hein, ». L'ère des danseuses faisant référence ici à l'appropriation de théâtre ou de journaux, etc., qui était en fait non rentable, de la même manière que le grand bourgeois s'accompagnait de danseuses, de belles danseuses, qui représentaient un coût économique, financier, mais qui avait une valeur de pur prestige. Et donc, effectivement, cette seconde étape que décrit là Garnham, c'est l'émergence, la consolidation de véritables empires médiatiques, la rationalisation accrue du processus productif. Mais néanmoins, et Garnham insiste là-dessus, je le disais tout à l'heure, processus contradictoire parce que cette étape non plus n'est pas dépourvue d'antagonisme, à savoir l'antagonisme fondamental, hein, je cite Garnham, la contradiction au cœur de la marchandise culturelle, puisque l'une des valeurs d'usage de la culture est la nouveauté ou la différence, il y a un besoin permanent de créer de nouveaux produits qui sont tous, dans un sens, des prototypes. Par conséquent, la marchandise culturelle résiste au processus d'homogénéisation qui est l'un des résultats matériels de l'équivalence abstraite de l'échange vers laquelle tend la forme marchandise. Donc, Garnham insiste tout de suite là, sur le fait que le contrôle des moyens de production ne garantit aucunement que les marchandises culturelles soutiennent forcément l'idéologie dominante, hein, que ce soit dans leur contenu manifeste ou dans leur appropriation par les consommateurs usagers. Et néanmoins, il précise que ce contrôle économique de plus en plus important des moyens de production a néanmoins été facilité par l'affaiblissement des pouvoirs de résistance de la classe ouvrière. Et cette attention vis-à-vis, je dirais, des contradictions internes au processus d'industrialisation de la culture, elle est présente tout au long des travaux de Garnham. Voilà, et je cite là un texte plus proche de nous qui date de 2000 ou 2001. D'un côté, l'évolution historique a créé la possibilité d'un accès démocratique général aux moyens de production et de diffusion culturelle. De l'autre, la division du travail place le contrôle de ses ressources entre les mains d'un groupe de spécialistes. Et comme je le disais tout à l'heure, de plus en plus, et sans doute du fait de son parcours professionnel, Garnham a été sensible au rôle croissant de l'État et d'institutions publiques, à la fois dans le façonnement de contraintes idéologiques pesant sur les producteurs culturels, et puis du point de vue de l'implication directe de l'État, de la puissance publique, dans le processus de valorisation économique. Je cite Garnham. Centrale à toute analyse complète de la production culturelle capitaliste et l'étude de la production et des spécialistes responsables de cette production au sein de la division du travail. Mon expérience professionnelle au sein de la télévision m'a sensibilisé à la manière dont la question de qui produit quoi et pour qui était déterminée par des structures institutionnelles plus générales ayant trait à la mobilisation et à la distribution de ressources. Alors, ces quelques éléments permettent de contextualiser les apports de l'auteur. Ce qui m'intéresse ici, c'est finalement de voir, au fond, l'un des secondes, je dirais, des autres, un autre apport très significatif de ces premiers travaux de Garnham, à savoir son analyse de la manière dont les industries culturelles, les industries de la culture et de la communication ont tenté de répondre ou, disons, ont tenté de contourner cet obstacle spécifique, hein, cette contradiction fondamentale. Et Garnham parle effectivement d'entraves au processus d'industrialisation de la culture qui se sont effectivement traduites par une succession de crises, c'est encore le cas, par un état d'instabilité permanente, instabilité qui se répercute évidemment sur la structuration même du secteur sous la forme d'oligopole à franges, du point de vue de la forte concentration de major companies et le maintien simultané de sous-traitants spécialisés, d'organisations précapitalistes, d'un vivier de travailleurs indépendants et d'amateurs, et cette structuration-là, finalement, comme une structure basique qui permet de déporter une partie du risque économique vers ses franges, justement. Alors cette observation-là, on la retrouve bien évidemment chez les auteurs à la même époque de capitalisme et industrie culturelle. Mais Garnham distingue par ailleurs ce qu'on peut considérer comme cinq stratégies ou recours qui permettent de répondre aux contradictions économiques propres à ces industries. En premier lieu, le contrôle de l'accès aux biens culturels et communicationnels. Alors, l'accès, à savoir ici, il remarque que ce contrôle est hautement sujet à la concurrence de technologies et de reproduction de distribution plus efficaces. Alors, l'observation se complexifie quelque peu avec les plateformes d'intermédiation numérique, mais j'y reviendrai après-demain. On peut considérer que la mise en place historique et l'application de droits de propriété intellectuelle constitue une seconde solution, mais alors, comme le souligne l'auteur, cette tentative de marchandisation a systématiquement encouragé le développement d'alternatives ou de ce qu'on appelle de piratage. On peut noter d'ailleurs au passage que le copyright, les droits de propriété intellectuelle, s'apparentent de fait à une autre modalité de contrôle d'accès. Troisième solution ou recours historique, l'auteur évoque l'obsolescence programmée des biens culturels et informationnels, ce qui serait l'accomplissement majeur de la presse, hein, en générant un besoin contenu de renouvellement de la consommation. Et donc, Garnham note qu'aujourd'hui, on parle d'un texte écrit dans les années 70, on fait face à une rotation accélérée du temps de consommation, hein, ce qui est vrai pour les médias électroniques et numériques, je cite, opérant en temps réel continu. Mais là, de cette évolution-là, de ce recours, je dirais, de ce patch, eh bien, découle une autre contradiction, à savoir que la concurrence est de plus en plus intense au sein des industries de la culture et de la communication pour un temps d'attention de plus en plus restreint des consommateurs. Quatrième point est abordé, là, le processus de création, de conditionnement et de vente, non pas de biens culturels et informationnels vers des consommateurs directs, mais vente de public vers des annonceurs. Et Garnham fait ici explicitement référence à la notion de « audience commodity » avancée par Dallas Smith. Donc on peut bien évidemment relier cette observation à une autre distinction que l'auteur propose entre deux types de produits culturels, et là c'est une observation qui jusque-là et souvent d'ailleurs après a été un peu sous-estimée par les approches de l'économie politique, deux types de marchandises, donc une première destinée à la demande finale de biens et de services qui sont consommés dans la sphère domestique ou la sphère des loisirs, et d'autre part des produits destinés à d'autres acteurs économiques, notamment à l'industrie de la publicité, ce qu'on appelle aujourd'hui le « business to business ». Et là, Garnham, effectivement, attire l'attention sur, je dirais, le poids, l'importance de cette seconde catégorie, toute la production culturelle qui alimente directement le système plus large de la production matérielle. Et Garnham souligne effectivement que l'économie politique a surtout étudié le premier type de marchandises culturelles. Cinquième et dernier patch, entre guillemets, au recours, Garnham rappelle l'importance grandissante au cours du XXe siècle du recours des industries de la culture et de la communication à l'État en tant qu'instance de régulation, de réglementation, mais également en tant que support direct de la valorisation et acteur économique, donc à part entière dans ce secteur. Alors, ces analyses, comme je le disais, sont évidemment nourries de son expérience au sein de la BBC. Mais il évoque aussi là, dès cette période de la fin des années 70, début des années 80, l'extension de marchés, de biens et de services culturels qui reposent sur ce que nous nommons aujourd'hui TICN, hein, Technologie d'information et de communication numérique. Et il ébauche alors la perspective du rôle accru dans le processus de valorisation, au détriment des acteurs, des contenus et avec le soutien de l'État, de trois catégories d'acteurs: les industries des télécommunications et des réseaux, les équipementiers informatiques et électroniques, et la filière publicitaire en tant que maillon, avec les industries de biens et de services de consommation courante. Et voici ce que Garnham écrit à la fin des années 80. Du fait des énormes investissements infrastructurels impliqués et du retour sur investissement comparativement faible, ces évolutions impliquent des alliances étroites entre l'État et le capital dans une tentative de faire porter le coût du système de distribution par le contribuable, tandis que le capital privé tire les profits de la vente de hardware et du développement ultérieur de marchés de consommation durable. Et ces propos-là s'inscrivent, me semble-t-il, dans le projet plus général de l'économie politique, de la culture et de la communication que défend ce chercheur, où il insiste notamment sur l'importance de saisir le rôle de l'État dans l'accumulation capitaliste, le rôle de l'État, aussi du rôle de la publicité au sein du capitalisme tardif, mais en insistant sur ce fait que pour comprendre la structure de notre culture, je le cite, nous devons confronter certaines des questions centrales de l'économie politique en général, et notamment cette question de la relation des secteurs privés et publics et du rôle de l'État. Et donc, comme je le disais, là, il y a en filigrane une profonde interrogation sur le rôle potentiel de l'État en tant qu'instrument ou allié de stratégies politiques cohérentes à visée émancipatoire. Il note avec un certain effarement, là, à la fin des années 80, début des années 90, que les gouvernements de l'ensemble des pays développés ont placé l'avenir de leurs industries de l'information et de la communication au sommet de leur agenda en matière d'élaboration de politiques économiques et industrielles. Et on sent effectivement un certain scepticisme là par rapport à cette perspective d'une issue politique étatiste de rupture avec le capitalisme. Alors, c'est à rapprocher du prémisse, me semble-t-il, que le développement de la production culturelle, ou donc de la production idéologique, dépendent de, je cite, la disponibilité d'un surplus dans la sphère de la production matérielle. Hein, c'est une observation de base chez Garnham, à savoir que les formes superstructurelles sont déterminées, mais déterminées dans le sens soft de Williams, il le précise. On va voir si on a un petit peu de temps pour revenir là-dessus. Je crois qu'on. Je vais essayer de faire ce que je peux sur ce second point. Mais l'idée que les formes superstructurelles, idéologiques, culturelles, sont déterminées par les relations sociales de production, car ce sont ces relations sociales qui déterminent la distribution de ce surplus. Voilà l'idée fondamentale qu'on trouve chez Garnham et qui a constitué, d'ailleurs, comme on le verra peut-être dans la discussion, un point d'attaque très fort de la part des études culturelles. Qui donc l'ont accusé d'économicisme, de déterminisme économique. Je vais essayer de résumer un petit peu, à l'oral, ce qui suit. Je voudrais simplement dire que mon propos ici est de revenir sur cette distinction base-superstructure et sur cette question finalement du degré d'autonomie des productions culturelles, des productions idéologiques par rapport aux relations de production matérielle étendues au niveau de la société. Et comme je le disais en introduction, Garnham s'inspire ici des travaux de Williams. Williams qui écrit dans l'ouvrage Marxism and Literature, je cite, l'ordre social et politique qui maintient un marché capitaliste est nécessairement une production matérielle. Des châteaux, palais, églises, aux prisons, ateliers, écoles, des armes de guerre à une presse contrôlée, toute classe dirigeante, de façon diverse mais toujours matériellement, produit un ordre social et politique. La complexité de ce processus est particulièrement remarquable dans les sociétés capitalistes avancées, où il devient absurde d'isoler d'une part la production, l'industrie, et d'autre part l'entertainment, le divertissement, l'opinion publique. Et Garnham reprend cette interrogation-là autour d'une distinction entre matériel et immatériel. Et il prolonge finalement les travaux de Williams avec cette remarque un peu perfide, en disant, bon, dans la mesure où le matérialisme historique est matérialiste, il est effectivement basé sur les postulats que souligne Williams. Mais dans la mesure où il est historique, il est préoccupé par l'analyse des modes fluctuants de cette relation matérielle fondamentale, qui sont tous des formes de cette relation, hein, relation de production. Alors, en particulier, il est postulé que toute forme de relation sociale étendue dépend de l'extraction et de la distribution d'un surplus matériel. Et les moyens d'y parvenir constituent donc la caractéristique déterminante de toute formation sociale. L'idée que propose Garnham en partant de ce petit désaccord ou de cet arrangement avec les travaux de Williams, c'est qu'il faudrait envisager plutôt l'économique comme une forme sociale historiquement située, spécifique, dans laquelle nous serions encore aujourd'hui, donc deux rapports de production. Les rapports de production dont Garnham est simplement en train de dire à cet égard-là que si nous revenons 200, 300, 400, 500 ans en arrière, la forme économique, à savoir l'échange de cette marchandise particulière qu'est le temps de travail contre cette marchandise particulière qu'est l'argent, n'était pas la dominante et qu'elle elle prend du temps historiquement à devenir, à ce que le salariat devienne la forme sociale économique. Il faut bien saisir, hein, savoir cette idée que l'économique, c'est la forme sociale des relations de production qui correspond à l'époque historique où le salariat est dominant, au fond. Et c'est ça que c'est cette précision-là que Garnham, je dirais, apporte par rapport aux travaux de Williams, en ajoutant ensuite qu'on doit distinguer entre deux formes. Une forme sociale qui est une série de relations et qui peuvent être analysées, etc. Et une forme culturelle ou des formes culturelles qui, tout en impliquant un support ou des supports matériels, n'est pas elle-même matérielle et a une relation essentiellement médiate avec la réalité matérielle qu'elle représente. Et là, effectivement, Garnham évoque l'hypothèse, l'éventualité de formes culturelles des relations de production dominantes, en ce sens que les productions culturelles, si on veut étendre son idée par extension, hein, tirer son idée jusqu'au bout, que les formes culturelles, qu'il s'agisse de la production d'un film, de la production d'un article de journal ou d'une application de téléphonie mobile, que ces formes culturelles sont en quelque sorte fondamentalement des formes culturelles déterminées par des relations de production. Déterminées. Alors, ça ne signifie évidemment pas que dans leur contenu manifeste et dans leur message, entre guillemets, ces différentes formes culturelles ne feraient que véhiculer en quelque sorte un miroir des formes sociales des rapports de production. Mais pour lui, il convient de s'extirper de cette espèce de dichotomie base-superstructure en envisageant cette déclinaison-là, forme sociale, forme culturelle. Alors, avant d'aller plus loin et d'envisager comment cette élaboration conceptuelle peut être utile pour la situation présente, et bien évidemment, Eric pourra vous donner, une fois qu'il aura été retravaillé un peu ce texte et mis en forme, le lien pour disons, mieux expliciter cette idée-là. Cette différence, cette distinction entre forme sociale et forme culturelle, il serait intéressant de voir un petit peu quand même que Garnham parle d'une. Il parle dans un contexte spécifique, au fond, qui est un contexte où. Notamment à la suite de certaines lectures, et j'insiste bien là-dessus, de certaines lectures d'Althusser, notamment du fait de l'importance aussi de la pensée de Lacan dans ce contexte intellectuel spécifique, peut-être à la Grande-Bretagne, mais bon, pas forcément d'ailleurs, mais dans le contexte en tout cas où il écrit. Il s'oppose, là où finalement le point sur lequel il est en désaccord, c'est d'une espèce de vision de l'idéologie abstraite des contextes sociaux. Et au fond, ce qui l'intéresse, c'est d'essayer de voir comment. Il faut comment aller au-delà de théories, je cite, asociales, ahistoriques, qui ne conçoivent plus la lutte contre des idéologies spécifiques, mais contre l'idéologie per se, et pour lesquelles le lieu de cette lutte est projeté soit en arrière, dans un âge d'or, comme pour beaucoup de la théorie de la société de masse, soit en avant, dans un futur utopique, soit vers l'intérieur, au sein de l'inconscient. Et il me semble que c'est cette. C'est notamment ce point-là qu'il a cherché, cette lutte contre ces visions ahistoriques ou asociales qui l'ont amené à ces différents controverses que je vais essayer de voir rapidement, si je peux. Maintenant, bon, il est 3 heures, je vais prendre un quart d'heure pour rapidement évoquer ce point-là. Évidemment, c'est contre les cultural studies que je dirais le feu le plus nourri de Garnham s'est déployé. En tout cas, c'est là qu'on connaît ses charges les plus vigoureuses. Bon, je vais devoir passer malheureusement sur son application dans un certain nombre de débats peut-être plus terre-à-terre, plus pratiques, autour de la mise en place de la télévision satellite en Grande-Bretagne, de la mise en place de la quatrième chaîne aussi, bon, des espoirs que ça a suscité. Voilà, je vais essayer de me concentrer ici sur ces controverses, ces combats plus sur le terrain académique. Alors, les termes que Garnham a utilisés lui-même pour évoquer ce débat avec les Cultural Studies sont surprenants, puisqu'un article de 1995 porte le titre Économie politique et études culturelles, réconciliation ou divorce? Et effectivement, on est dans un répertoire assez connoté. 5 ans plus tôt, donc en 1990, Garnham avait déployé sa charge contre l'évolution des études culturelles. Ces études culturelles, selon lui, se fourvoient en se focalisant sur le discours au sein d'un cadre d'analyse relativiste et ahistorique. Elles sont obnubilées par la question de la réception des messages médiatiques. La question des luttes pour les significations et les identités remplace et évacue une analyse en termes de lutte de classe, de relations de production. Et néanmoins, on voit une sorte de main tendue là, de la part de Garnham. Garnham qui dit « Je défendrai l'idée que cet antagonisme entre ces économies politiques et études culturelles repose sur une profonde incompréhension de l'économie politique et que le projet des Cultural Studies ne peut être correctement poursuivi que si le pont avec l'économie politique est rétabli. » Et effectivement, ce pont entre études culturelles, cultural studies, et économie politique, ben ce pont, Garnham s'en va le retrouver du côté des premiers, je dirais, des pères fondateurs, entre guillemets, Williams Hogarth ou encore E.P. Thompson, hein, qui, effectivement, eh bien, ont étudié la culture comme lieu de combat, de résistance, au sein d'une stratégie politique plus générale de revalorisation de la culture de la classe ouvrière. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ce contexte où les industries culturelles sont en pleine expansion. Et Garnham rappelle que eh bien, ce courant des cultural studies, à ses tout débuts, s'était effectivement érigé en tant qu'opposition aux structures et organisations de pouvoir. Et il s'interroge où aujourd'hui, est-ce que chez les études culturalistes, où est-ce que l'on trouve une analyse des producteurs culturels, des pratiques et des instances organisationnelles qu'ils habitent par lesquelles ils exercent leur pouvoir. Bon, Garnham rappelle aussi, et c'est un des apports de, comme je le disais, d'autres courants théoriques européens. Il rappelle une des leçons centrales des recherches de l'école de Francfort, à savoir l'importance du plaisir et du consentement pour la prégnance des produits culturels industriels. Et je cite ici à nouveau Garnham, « Oui, il est important de reconnaître l'investissement émotionnel des individus lors de telles pratiques et les plaisirs qu'ils en tirent, mais quiconque ayant produit un texte ou une forme symbolique, quiconque ayant produit un texte, peut-il vraiment croire que l'interprétation est entièrement aléatoire ou que le plaisir ne peut pas être instrumentalisé à des fins manipulatoires ? Alors, dans cette controverse, finalement, Garnham en arrive à des termes assez cinglants, puisqu'il dit, voilà, d'un point de vue épistémologique, chez les études culturelles, les descriptions deviennent sans cesse plus épaisses, mais à quelle fin? Car elles ne peuvent aboutir, comme dans l'histoire de Borges, à une carte qui serait physiquement identique au monde qu'elle est censée décrire. On a finalement un certain nombre de réponses qui sont données, notamment par Lawrence Grossberg, qui sont intéressantes. Lorsqu'on y lit notamment que pour Garnham, le capital est visiblement mécaniquement déterminant du début à la fin, que pour Garnham, la culture n'a d'importance que en tant que marchandise et outil idéologique de manipulation. Et Grossberg arrive finalement à affirmer c'est précisément parce qu'aucun ajustement spécifique et aucune comptabilité fixée à l'avance ne peuvent être identifiés entre la base et la superstructure que les interrogations des cultural studies deviennent cruciales. Mis en parallèle avec une question posée au sujet de la conception de la base avancée par Garnham, Grossberg demande effectivement l'économie ou est-ce seulement la production pour Garnham, cette remarque montre finalement que la position de Grossberg révèle avant tout d'une incompréhension ou alors d'une ignorance des travaux fondateurs évoqués plus haut. Et c'est un débat, des échanges qu'on retrouve aussi entre Garnham et Stuart Hall, où voilà, on a un certain nombre d'incohérences qui parsèment ces discours. Même si, et j'insisterai là-dessus, on pourra y revenir dans le cadre de la discussion, j'espère, même si Grossberg a effectivement cette remarque intéressante, Grossberg, c'est un article qui fait écho à ce divorce et réconciliation. Grossberg écrit « Si la notion et la pratique de production sont elles-mêmes produites culturellement et si les relations entre la production et la consommation sont plus complexes, moins stables que ne le suggère Garnham, stabilité, je pense que là on est... au contraire, Garnham insiste sur le caractère contradictoire, graduel, non abouti, mais bon, on ne va pas forcément revenir là-dessus. Alors, le modèle d'une analyse culturelle basée sur la séparation entre la production et la consommation est lui-même problématique, tout comme la réduction de la production au travail salarié, réduction qui ignore ce que Marx lui-même avait souligné, la production est présente dans la consommation-reproduction. Je crois que ce serait intéressant effectivement de revenir à ces questions un peu plus bas. Je voudrais terminer, puisque je vois quand même que il est 15 heures passées. Je vais terminer rapidement sur, au fond, là où débouche cette controverse avec entre Garnham et les tenants des cultural studies, et notamment à quelques mots qui ont été donc prononcés par Garnham dans un débat, une discussion publique à Westminster il y a 2 ans, discussion publique qui a été animée par Christian Fuchs. Et effectivement, Garnham affirme, voilà, l'autre problème, et je pense que c'est toujours d'actualité, est que je pensais que les tenants des cultural studies exagéraient les effets de ce qui est étroitement appelé les pratiques culturelles sur la vie en général et son développement. Malgré tout le bavardage sur la société de l'information et tout ce qui s'ensuit, si vous regardez les débats contemporains sur l'orientation de la société, les développements importants ne sont pas d'ordre culturel. Ce ne sont pas l'émergence des médias sociaux ou quoi que ce soit de cet ordre. Tout ça, c'est de l'écume à la surface. Les questions qui importent sont celles des évolutions démographiques et des niveaux de croissance de la productivité dans l'économie. Si vous regardez l'économie mondiale, malgré tout le bavardage sur la culture et l'information, quelles sont les questions qui préoccupent le plus les gens? La production énergétique, l'accès à l'eau propre. Les grandes fortunes ne se font pas dans le high-tech ou l'économie numérique, mais dans l'exploitation minière. Le plus gros problème auquel fait face l'économie mondiale est l'infrastructure de transport physique, le manque de capacités portuaires et de lignes ferroviaires, faire déplacer des choses. Bon, on peut revenir rapidement en guise de conclusion sur ces propos de Garnham, bon, qui évidemment là tense un peu son public. Hein. Il y a presque. Bon, le public est venu l'écouter faire un retour sur sa contribution à l'économie politique des médias de masse. Et puis finalement, il dit non, tout ça c'est de l'écume à la surface par rapport à l'importance de phénomènes comme l'infrastructure de transport physique. Et effectivement, on serait presque tenté d'y voir une sorte de provocation si la remarque. Ne s'inscrivait pas profondément dans une vision selon laquelle, je cite, les médias sont principalement des réseaux de distribution, non pas des unités de production. Et entendez, unités de production de sens, unités de production de signification ici. Et au fond, c'est sans doute cela qui le sépare, je dirais, fondamentalement des tenants des cultural studies et par ailleurs des avocats de la notion d'industrie créative et qui permettent de mieux comprendre, au fond, le sens de la remarque qu'il a et qu'il formule dans son intellectual mémoire lorsqu'il dit « J'ai toujours été méfiant face à la compréhension superficielle et même le rejet des sciences économiques dont font montre les cultural studies. » C'est-à-dire, là, pour synthétiser ce que je viens de dire, vraiment de façon très claire, et ça s'affine au fil des années chez Garnham, les médias, ou ce que nous nommons les médias, sont avant tout à concevoir au sein d'un questionnement structurel plus large, et notamment sur le rôle, sur l'évolution finalement, il dit lui-même, les évolutions dans le champ de la diffusion médiatique sont au fond quasiment uniquement des effets secondaires, quasiment accidentels, de luttes économiques et politiques autour de réseaux téléphoniques et d'échanges de données. Un constat qu'il faisait là à partir d'une conférence à laquelle il assistait en 1976. Donc une vision qui d'ailleurs prend, je dirais, qui reste extrêmement intéressante et importante aujourd'hui. J'essaierai de revenir là-dessus après-demain pour la compréhension du web collaboratif et au fond de la transformation de la place des comptes, de ce qu'on a appelé jusqu'à maintenant des contenus culturels. Est-ce que je peux terminer avec juste une petite phrase? Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est que le positionnement politique de Garnham, affirmé, je dirais, très clairement affirmé dans ses premiers travaux et dans ses interventions dans les années 80, semble évoluer, semble, hein, on est tenté, comme souvent, de voir là de l'eau mise dans le vin. Mais là encore, je vous inviterai, une fois que ce texte sera en version, je dirais, définitive, à venir éventuellement questionner, voir comment, en tout cas, on peut questionner cela. Ce qui est certain, c'est que Garnham montre effectivement que la puissance publique n'a jamais cessé de constituer un retour stratégique, une solution entre guillemets aux obstacles d'accumulation du capital dans le secteur de la culture et de la communication. Bon, on peut le voir effectivement aujourd'hui, qu'il s'agisse des investissements productifs, infrastructurels, des financements publics de recherche et de développement qui existent encore, des cadres législatifs et fiscaux pour le moins avantageux, ou plus fondamentalement de l'appui massif dont a bénéficié la sphère financière depuis 2008 et dont la valorisation de l'économie dite numérique est étroitement dépendante. Donc un certain nombre d'interventions publiques qui se réalise effectivement au travers d'un maillage d'agences, d'institutions diverses au niveau régional, national, supranational, et donc avec une désarticulation apparente. Mais ce qui est intéressant, c'est que, et là j'arrêterai là-dessus, lorsque au début des années 90, Garnham déplorait une perte de foi généralisée dans la solution étatiste, y compris au sein de la gauche politique, hein, c'est ce qu'il note en 90, il songeait bien sûr à l'éloignement de la perspective d'une alliance historique entre classe ouvrière, classe populaire et encadrement intellectuel pour le contrôle de l'État. Et on peut se demander si 20 ans plus tard, Garnham ne s'est pas lui-même résigné, puisqu'il conclut son intellectual mémoire en soulignant que son analyse insiste sur les limites du pouvoir politique et économique et met en avant l'incertitude et le doute qui conduisent à des conclusions inconfortables pour la gauche parce qu'elle souligne les possibilités limitées de l'intervention planifiée. Et il y a un dernier point qui peut-être permet d'expliquer par ailleurs cette apparente résignation, c'est que Garnham va s'intéresser notamment aux travaux de Sebastiano Timpanaro, de Peter Fuller, avec dans le cadre d'un de ses derniers grands bouquins, donc de Garnham, Emancipation, the Media and Modernity, où il évoque l'hypothèse de pans de culture, ou alors peut-être faute de mieux appelons cela des pans d'humanité, qui échappent aux tendances historiques que son œuvre permet pourtant d'analyser en profondeur. Et c'est avec cette évocation plutôt que je voudrais donc clore la présentation d'aujourd'hui. Garnham se préoccupe ici des dimensions supposément plus immuables de l'expérience humaine, l'instinct sexuel, la sénilité, la peur de la mort, la tristesse face à la mort d'autrui, ce qu'il appelle des constantes relatives de l'expérience psychobiologique, qui, tout en étant culturellement structurés, en fait, auraient des racines en deçà des formes sociales évolutives des relations matérielles de production. Et c'est là que Garnham, finalement, conclut. La culture peut être conçue comme idéologique dans la mesure où les intentions des producteurs, les désirs et besoins des consommateurs, sont marqués par des médiations de la formation sociale capitaliste plus générale. C'est aussi le cas, je pense, que les intentions des producteurs, les désirs et besoins des consommateurs dans le champ culturel sont déterminés à un niveau humain plus profond et évoluant selon des rythmes historiques beaucoup plus lents qui ne peuvent être capturés par le mode de production capitaliste. Donc au fond, une note positive, mais qui, voilà, qui ouvre beaucoup d'autres questions, me semble-t-il. Voilà, merci.
Merci Jacob.
Ben, la parole est donc à vous.
N'hésitez pas, effectivement, à ne serait-ce que des points de détail éventuellement qui, ou des points qui sont voilà, qui mériteraient d'être repris ou voilà, il y a effectivement. Bon, j'ai été un peu ambitieux en pensant que j'arriverais à tenir l'ensemble du texte en une heure parce que bon, il y a beaucoup de choses, notamment sur cette distinction entre forme culturelle et forme sociale, et comment Garnham essaye ici de dépasser l'espèce de dichotomie mécaniste entre base et superstructure, avec l'idée bien évidemment que les productions culturelles, productions idéologiques, productions politiques aussi, et étendant-le peut-être aussi à production scientifique, ont des degrés d'autonomie variables du point de vue des formes sociales des relations de production. Et au fond, c'est cette idée-là qu'il développe avec, par ailleurs, la proposition que, au fait, en définitive, plus les formes culturelles, c'est-à-dire plus les études culturalistes appellent plus les textes, plus les textes sont autonomes, moins elles sont effective du point de vue de soit d'une transformation des relations de production, soit du point de vue de leur justification et donc de les garantir, de les maintenir en quelque sorte. Et en fait, il y a ce questionnement là qui est chez Garnham autour effectivement d'autonomie relative, mais plus il y a d'autonomie, est-ce que cela signifie pas que moins ces textes entre guillemets sont effectifs du point de vue matériel, hein, du point de vue des relations sociales dont nous participons. Voilà. Donc il y a presque matière à un cours de 30 heures rien que sur cette partie-là, me semble-t-il.
Je vais briser la glace. Justement, sur cette question des formes culturelles, il y a quelque chose qui m'apparaît frappant, et on le voit en France en ce moment avec les grèves au sein d'ITV. On le voit, on l'a vu avec le lock-out du journal de Montréal, par exemple, où on a d'un côté, on parlait de la concentration des médias de plus en plus importante et justement l'accumulation de plus en plus forte par des grands capitaines d'industrie du contrôle de différents médias, pour parvenir sur la définition d'oligopole, et de cette crainte que beaucoup ont de ces grands patrons de médias qui vont donner une orientation sur les contenus, les formes culturelles justement en question. Mmh. Et d'un côté justement une résistance de certains travailleurs culturels, et c'est une source de tension. Et je pense à ITV parce que c'est en plein en ce moment dans ce débat-là. Mmh.
Si, c'est intéressant. Alors c'est intéressant, je ne connais pas l'exemple, le deuxième exemple.
Le code du journal de Montréal. Mais...
Le code
Lockout,
ok, ouais. Et donc, en fait, parce que moi, je connais un petit peu le cas là de ITL.
Peut-être préciser, peut-être contextualiser en quelques mots.
Oui, alors le cas, ce qui se passe d'après ce que j'ai compris moi chez ITL, moi ça m'a fait beaucoup sourire, c'est qu'il y a effectivement un mouvement de grève qui est lancé parmi les personnels journalistes, me semble-t-il, hein, pas parmi les personnels techniciens, techniques ou administratifs de la chaîne, mais un mouvement de grève qui a été lancé suite au recrutement d'un présentateur, on ne va pas lui donner le nom de journaliste, qui est comment s'appelle-t-il, c'est pas Morandini,
Jean-Marc Morandini. Oui, en fait, ITL est une chaîne de télévision spécialisée en information, voilà. En France,
voilà. Et c'est
qui est en grève depuis 15 jours Et c'est en effet la rédaction qui est entrée en grève.
Voilà. Et donc, effectivement, le conflit porte sur le recrutement de cette personne et donc sur vraisemblablement une dénonciation là de la part des grévistes des mœurs de Morandini, hein, n'est-ce pas ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il est impliqué, oui, dans des affaires de harcèlement sexuel, donc inculpé, pas encore prisonnier innocent, mais donc il y a ça, mais à côté de ça, il y a aussi toute une revendication liée, puisqu'on est vraiment dans du divertissement plus que dans de l'information, oui. Et une chaîne qui est justement, ça dénote aussi une certaine volonté de marchandisation de l'information, dans le sens où on va chercher un produit vendeur, et de la part des journalistes, certaines revendications expliquant que c'est une orientation de l'information qu'ils ne veulent pas et que ça dénote un peu aussi ça. Et il y a aussi cette revendication qui...
D'accord, j'étais moins sensible au fait qu'il y avait aussi cette vision plus large.
Peut-être que ça a été le déclencheur de l'anecdote, mais ça a été la base d'aller rechercher un peu plus des revendications un peu plus liées justement à cette dynamique de vouloir faire une information payante de cette dynamique.
Alors, on ne peut pas non plus couper ça du fait du nouveau propriétaire du groupe Canal+, qui possède la chaîne de télé, c'est Vincent Bolloré,
oui.
Qui, pour certains, a une certaine tendance à directement, en fait, contribuer à virer un certain nombre de personnes au sein de la chaîne.
Oui, il y a eu un programme d'épuration.
Et donc, ça renverrait à la question des rapports directs entre les contenus d'un côté, les textes, et puis...
Et une volonté de marchandisation et aussi de rationalisation, parce que ce qui s'est passé avec le journal de Montréal, c'est que pareil, on a un grand industriel qui a voulu aussi un peu rationaliser la production, alors avec le grand discours lié à la convergence aussi, mais c'est ça, de faire quelque chose de finalement plus payant, au mépris d'une information peut-être plus de fond.
Mais est-ce que ça ne renvoie pas finalement à... Oui, pardon.
C'est pour ça, ces tensions entre justement des certains objectifs économiques par ces capitales d'industrie et de l'autre justement la volonté de travailleurs culturels.
Oui, je crois que ça renvoie certainement à cela, mais il me semble que ça renvoie dans le cas de Bolloré, iTélé, ce que Bolloré fait par ailleurs avec Canal+, etc., ou ce qu'on voit aussi dans une moindre mesure au journal Le Monde, avec la participation au capital du PDG de Free, comment s'appelle-t-il, ce Niel, effectivement, il me semble que tous ces exemples-là, curieusement, renvoient à ce à quoi Garnham fait référence lorsqu'il parle d'un stade antérieur, du contrôle des moyens de production idéologique, hein, savoir cette ingérence des propriétaires dans la production de contenu eux-mêmes. Et au fond, curieusement, je me demande dans quelle mesure des cas emblématiques comme cette grève à iTélé ne nous détournent pas de problèmes plus fondamentaux qui ne relèvent pas du contrôle direct, mais de ce second stade qu'évoquait Garnham. Alors, est-ce que ce qui se passe aujourd'hui avec Twitter dans une certaine mesure emblématique de ce second stade, dans la mesure où, effectivement, on a la possibilité que, très vraisemblablement, que Twitter cesse d'exister en tant que service ou en tant que service tel qu'il est aujourd'hui. On a de l'autre côté un mouvement coopérativiste qui se met en place pour visiblement proposer que Twitter devienne une sorte de bien public, de bien associatif en ce moment. Et au fond, la non-rentabilité et le caractère finalement de Twitter qui redevient en quelque sorte une espèce de danseuse, ou en anglais on dit liability, pour ses propriétaires actionnaires, au fond renvoie peut-être davantage au second stade dont parle Garnham. En tout cas, Moi, j'avais été frappé, c'est vrai, par cette histoire d'Italie. Je n'ai pas suivi, ça fait une dizaine de jours que je suis ici. J'ai peu suivi l'actualité en France depuis cette date. Mais ce qui m'avait frappé, en tout cas, mais j'avais visiblement mal compris, ou compris qu'une partie des choses, c'était effectivement que la grève porte, au fond, non pas sur des questions salariales ou sur des questions... disons d'ordre d'augmentation de revenus, etc., mais porté sur il me semblait sur une question éminemment culturelle, justement. Or, c'est plus nuancé d'après ce que vous dites, puisque la question ici est effectivement celle du statut de la fonction des producteurs intellectuels, culturels, spécialisés que sont les journalistes. Donc il y a plusieurs éléments là à voir, mais je ne voudrais pas trop me prononcer en n'ayant pas étudié en profondeur le cas.
Non, mais juste pour dire, c'est que d'un côté on voit cette emprise de plus en plus importante de grands propriétaires et par moment, mais c'est vrai que peut-être qu'on le voit passer, mais on voit certaines tensions émerger et des histoires justement de guerre culturelle.
Oui, oui, tout à fait.
Là, on est une tension quand même assez...
Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est aussi, sans doute, ça renvoie à cette notion d'industrialisation comme processus antagoniste et sans cesse. Et on le voit avec les exemples qu'il donne là de solutions au problème de la valorisation dans le secteur, qui à chaque fois, ces solutions se retournent au fond en créant de nouveaux problèmes. C'est assez cocasse, si on a cette espèce de fresque historique-là.
Mais si on te suit, c'est un petit peu comme si l'exemple que Simon prenait, en fait, était un exemple qui est issu d'un monde traditionnel, on va dire, mais qui est déjà en partie dépassé aujourd'hui, en fait.
Oui, peut-être j'aurai l'occasion. Parce que j'aurai l'occasion de revenir là-dessus après-demain. Ce qui est curieux, en fait, si je reviens à mon Garnham, ce qui est curieux, c'est effectivement la notion de la manière dont il utilise la notion de consommateur. Hein, d'un côté, vous avez dans ces textes une explicitation très claire du fait que le bien culturel ne peut être détruit par sa consommation, hein, dans la plupart des cas, on constate qu'on trouve chez d'autres économistes de la culture et de la communication, mais néanmoins il maintient cette notion de consommateur. Et c'est là-dessus que d'ailleurs je disais Grossberg l'attaque, en disant oui, chez Garnham il y a cette distinction je dirais surannée entre consommateur et producteur. Par ailleurs, il ne s'intéresse pas suffisamment, au fond, au travail du consommateur. Et pour faire la boucle avec ce que tu dis, Eric, il me semble que là où les travaux de Garnham sont très utiles, mais là où il n'a pas poussé son analyse jusqu'au bout, c'est notamment autour de l'importance qu'ont et que vont avoir de plus en plus, à partir des années 90 et 2000, les apports des usagers, entre guillemets, consommateurs des TICN. Et qu'une énorme part de la production aujourd'hui de contenu, entre guillemets, c'est peut-être non plus une production de contenu au sens traditionnel, mais la production massive de contenu souvent très insignifiant, que nous déployons en utilisant les, entre guillemets, réseaux sociaux numériques, de par nos interactions. Et donc, c'est là que prend sens, au fond, cette espèce de prémonition qu'on a chez Garnham de dire, au fond, les médias, de plus en plus, ne seront que des tuyaux, au fond. Et ce qui est important, c'est la possession, la gestion des flux sur ces tuyaux et le contrôle des flux sur les tuyaux, entre guillemets. Et c'est là que je dirais qu'effectivement, on arrive dans une deuxième ère, parce que cette vieille ère, entre guillemets, des producteurs spécialisés que sont ces journalistes indignés par rapport à Morandini, Au fond, est-ce que oui, est-ce qu'elle n'est pas emblématique d'une époque en cours qu'on est en train de quitter et où effectivement les consommateurs producteurs, je veux pas non plus aller vers du truc de futurologue à Alvin Toffler, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il me semble néanmoins que la notion, ça j'aurai l'occasion d'y revenir vendredi, la notion de travail du public qui a été repris de Dallas Smith et approfondi notamment par Brice Nixon est très importante et permet de faire au fond le pont entre économie politique et cultural studies qui se dessine dans l'œuvre de Garnham mais qui n'avait pas été correctement menée jusqu'au bout. Voilà. Et après, ça, encore une fois, processus graduel, contradictoire, non abouti, avec des phases qui se surajoutent plutôt qu'elles n'annulent ou suppriment l'existant. Donc ce qui était valable pour expliciter le cas d'Itélé ou de Journal de Montréal, ne devient pas caduque du fait de l'importance grandissante des usagers dans la valorisation. C'est ça que vous voulez dire. Voilà.
Bon, je vais peut-être continuer. En fait, oui, alors, c'est un peu... Oui, d'un côté, je vois bien l'idée, parce que j'ai noté là, les médias se réduiraient à être avant tout des réseaux de distribution. Alors, on voit bien... par exemple, que pour toute une industrie, notamment l'industrie des télécoms, ce qui importe, c'est les flux qui circulent, en fait. Mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que même à notre époque, en fait, la question de la production demeure quelque chose d'important.
Oui.
Bon, la cinématographie, ça existe toujours. Quand on regarde des nouveaux services comme Netflix, ils font... avant tout leur renommée sur un petit nombre de productions dont on parle même à une échelle de plus en plus internationale. Donc j'ai pas l'impression que la question de... ça n'est pas parce que la télévision comme forme culturelle est remise en cause qu'il n'y a plus de programmes télévisés, que les gens ne sont pas toujours attachés à un certain nombre de ces programmes. Il suffit de voir quand même que, par exemple... Bon, c'est un indicateur parmi beaucoup d'autres, mais les taux d'audience ou les codes d'écoute de certaines émissions restent quand même relativement importantes, même si on a un univers extrêmement vaste, beaucoup plus vaste qu'il y a 10 ou 20 ans. Donc je n'ai pas l'impression que la question de la production soit... parce que, ou alors sinon, on serait dans une espèce d'univers complètement... à l'extrême où chacun aurait sa propre production, en fait, et ne regarderait que sa propre production ou avec quelques amis. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit ça qu'on nous propose.
Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça ne veut pas non plus, encore une fois, dire que les médias dits qu'on appelait autrefois médias de masse disparaissent. Netflix est un cas intéressant. Hein, surtout, alors moi, j'ai pas les chiffres là-dessus. C'est pas quelque chose que j'ai analysé en profondeur, mais ce serait intéressant de voir. Il me semble qu'il y a une part croissante de leurs revenus qui sont dépensés en production propre, chose qui n'était pas le cas dans un premier temps. On a des choses similaires avec Orange en France, même si là il y a une part d'injonction publique dans la production de contenu. Effectivement, la notion de média en tant que système pour la production de contenu ou la production de signification, de forme symbolique, Garnham le questionne. Il a cette remarque intéressante qui est de dire qu'au fond, que si cette définition-là est valable, Et effectivement, elle reste, je crois, en partie valable. Encore une fois, c'est des strates qui se surajoutent plutôt qu'elles ne s'annulent. Que si cette définition est valable, le système éducatif doit figurer comme l'un des médias les plus importants, si ce n'est la plus importante de la modernité. Et ici, effectivement, il renvoie vers toute la sociologie bourdieusienne, mais au fond, vers un constat, je dirais, élémentaire. Au fond, c'est une vision de médias comme moyen de persuasion. Et alors, il y a toute une réflexion là, chez lui autour de l'idée comme de médias comme moyen de persuasion plutôt que comme moyen de coercition. Au fond, il me semble que là où on peut faire au fond le lien entre ces deux visions de médias, au fond de médias contenus, de médias tuyaux, si on veut dire les choses de manière un peu rustre, c'est que c'est ce que j'essaierai de mettre en avant vendredi, de décortiquer un peu vendredi, à savoir que c'est la production de ces médias plus largement comme moyen de persuasion, elle implique de plus en plus les usagers dans leurs échanges, sur les réseaux sociaux numériques, non seulement échanges, je dirais, de data, de bits, de morceaux de films, morceaux de séries réassemblés pour façonner le contenu, je dirais, sur le réseau lui-même, mais aussi d'échanges communicationnels autour. Alors là-dedans non plus, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Hein, ça, effectivement, j'ai étudié il y a longtemps le décade de starisation du rock dans les années 70. Il y avait déjà un fort travail de l'usager, ne serait-ce que dans le travail d'appeler des radios FM pour faire en sorte que qu'elle devenir tube passe. Le travail des fans immense en termes d'écriture de lettres de fans, de gestion de fans. Des travaux artistiques amateurs adressés au label, etc. Donc, il n'y a rien de fondamentalement nouveau. Ce qui est nouveau, sans doute, c'est la visibilité et peut-être une prise de conscience plus large de l'importance économique et au fond, de la participation à ces moyens de persuasion, hein, au sens large. Je ne parle pas de propagande politique, hein, que sont plus largement les productions médiatiques symboliques. Et donc une compatibilité, voilà, il me semble, à ce niveau-là. Mais je crois que là où Garnham, au fond, a raison, c'est plutôt sur la question économique. Disons-le, de la question du poids des ressources mobilisées d'un côté par des acteurs traditionnellement ou aujourd'hui encore actifs dans le domaine de la production industrielle de contenu, et d'autre part le poids des ressources mobilisées du point de vue de l'infrastructure télécommunicationnelle, réseau, équipement, etc. Je pense qu'on est sur des niveaux quand même assez différents de ce point de vue-là. Et que ça, c'est quand même, l'organisation des réseaux, l'organisation du travail aussi, ça a une incidence plus large. Et je pense que c'est là-dessus qu'on... Encore une fois, je crois que l'un des apports, en tout cas, de ce que je retiendrai vraiment de Garnham, c'est cette nécessité de toujours essayer de se défaire de l'habitude que nous avons de penser les médias ou de penser la production culturelle en abstraction des enjeux socio-économiques plus larges Et parfois, parce qu'on est à fond sur une question qui nous préoccupe, hein, moi c'était la starisation dans le rock des années 60, bon, il m'a fallu longtemps pour ouvrir et m'apercevoir qu'au fond, des questionnements, des points qui concernaient des luttes au sein de l'appareil juridique législatif états-unien à cette époque-là étaient à prendre en considération, puis petit à petit aussi la publicité, l'industrie automobile, enfin, et puis de voir au fond l'objectif que je m'étais assigné il y a bien longtemps lorsque je travaillais comme vous en master, eh bien je me mettais des œillères finalement, et ça je trouve qu'il est encore très utile de ce point de vue-là.
Oui, on pourrait dire aussi, reprendre l'expression selon laquelle en fait il faut refuser toute approche de type médiacentrique.
Absolument.
C'est bien résumé.
Ouais, ouais, ouais.
Je ne veux pas monopoliser la parole. Et dans ce cas-là, il faut abattre les disciplines.
Comment ?
Et dans ce cas-là, il faut abattre les disciplines.
Je pense qu'au début, je trouvais un peu radical son affirmation qu'il faut s'occuper uniquement des tuyaux, etc. En même temps, j'y repense de plus en plus la bataille autour de la fibre optique. Netflix, si on y pense, c'est quand même d'abord un moyen de distribuer du contenu, puis c'est comme ça qu'ils ont fait suffisamment d'argent pour devenir un producteur, et pas inversement. Donc, normalement, c'est plutôt les studios hollywoodiens qui, en faisant des bons films, enfin, en faisant un maximum de bons films, commence à capitaliser.
Oui, il y a eu d'autres modèles. Oui.
En fait, ça fait longtemps que c'est plus vraiment comme ça, mais c'est là. Et donc, cette idée, vraiment, se concentrer sur les tuyaux, je regardais le rachat de AT&T, de la Time Warner, c'est une des plus grosses fusions dans le domaine des industries culturelles, et c'est vraiment quelqu'un qui fournit les câbles, qui rachète. En fait. Là, je crois qu'il y a une proposition très, très intéressante. Un peu à côté de ça, ma question c'était par rapport à cette autonomie des textes, hein, le fait que, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus à ce propos, parce que j'arrive pas très bien à comprendre s'il dit que ces textes ne peuvent rien apporter à quelque chose qui pourrait être de l'ordre de l'émancipation ou de la transformation de la société. Là je trouverais cette proposition vraiment de nouveau pour le coup assez radicale, parce qu'on pense plutôt aujourd'hui, on essaie de penser la création, des choses qui apparaissent dans l'espace public, qui sont capables justement d'amener, pas des révolutions, mais disons un changement. Et lui, il aurait tendance, si j'ai bien compris, à nous dire, plus les choses sont créatives, sont originales, moins elles sont capables de... plus les textes sont originaux. Est-ce que là, vous pouvez nous en dire?
Ok. Ouais, non, c'est une question très importante, effectivement. Il me semble... Bon, d'abord, c'est plutôt une hypothèse qu'il pose, cette question de l'effectivité, c'est-à-dire, au fond, comment des textes, des productions médiatiques, journalistiques, mais aussi des productions artistiques ou scientifiques, comment ces productions-là... qui sont, que les cultural studies appellent des textes, Dave Hesman-Halsh aussi reprend cette notion de texte, moi elle me convient, moi je n'ai pas de problème particulier avec cette notion-là, comment effectivement ils peuvent influer sur l'organisation matérielle de la société, les relations de production matérielle. Il faut bien sûr pas perdre de vue que Garnham est inspiré par ce postulat, cette vision marxiste, je dirais, il y a une vision marxiste fondamentale chez lui, la question principale et première qui doit être réglée au niveau de la société, c'est la question de la propriété des moyens de communication et donc d'aller vers des relations de production qui ne soient plus inégalitaires et où donc et où l'abstraction de la marchandise, fondamentalement, serait dévoilée et dépassée, effacée. Il y a bien évidemment cette vision. Hein, d'une... Et donc, pour parler d'effectivité, il me semble que dans les travaux de Garnham, là, en tout cas jusqu'à années 70, années 80, l'effectivité se situe à ce niveau-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions annexes ou secondaires, mais fondamentalement, l'effectivité, c'est l'effectivité autour de la consolidation de rapports de production de type capitaliste, de leur extension. Alors, on en parlera vendredi éventuellement sous des formes peut-être inattendues, d'une abolition du salariat, savoir effectivement que le web dit collaboratif, l'économie collaborative, c'est bien évidemment un développement massif d'emplois précaires, mais d'emplois non salariés, freelance, etc. Mais bon. Ou alors, donc consolidation, extension, ou alors contestation concrètement l'instauration de rapports de production alternatifs, donc on a de type socialiste ou de type, disons-le, sur le modèle, un modèle auquel on peut se référer, c'est par exemple le modèle de la fonction publique en France, un statut qui effectivement abolit de facto la relation propriétaire possédant salarié. Bon, je reviendrai pas. Donc, partant de là, la question de forme culturelle autonome, Garnham dit effectivement, il y a aucun problème du fait de l'antagonisme qui est au cœur du processus d'industrialisation culturelle, l'autonomie, elle est de fait là. Des textes oppositionnels, des textes politiquement contestataires, des textes de résistance, d'appel à la résistance, peuvent effectivement se développer, mais au fond... Ce qu'il propose par là, plus que de l'affirmer, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi chez les auteurs de Capitalisme et Industrie culturelle en 78, c'est cette même idée qu'au fond, tout est bon tant que cela permet effectivement directement ou moins directement la valorisation du capital. Alors là où je vous rejoins, c'est que effectivement un certain nombre de ces... de ces textes contribué à un certain nombre de changements sociaux, plutôt sociétaux, depuis la période où Garnham écrivait cela, pensant effectivement aux droits des minorités ethniques, sexuelles, à ces questions-là qui sont effectivement des questions importantes, mais au fond, pour l'analyse, pour l'école d'analyse dont Garnham fait partie, ce sont des questions néanmoins subsidiaires dans la mesure où cela limite le combat politique contre les idéologies à des combats locaux, à des combats limités. À des domaines spécifiques et qui ne vont pas, vers le problème essentiel, qui serait essentiel. À mon avis, là où je l'ai amené dans le texte que je vous avais proposé là, de lire, Éviter l'amour du sable qui crisse, c'est à l'idée de l'élaboration en quelque sorte de formes culturelles parce que c'est là-dessus il y a chez Garnham une imprécision. Il y a deux usages de la notion de forme culturelle. à la fois l'idée de forme culturelle comme, mettons, un article de journal ou un film, et puis l'idée de forme culturelle comme discours plus développé, où on rejoint presque la notion de doctrine, au fond. Et c'est en ce sens-là que moi je parle de forme culturelle du web collaboratif ou de l'économie collaborative, de la même manière qu'on pourrait parler des notions d'industrie créative comme forme culturelle dans son ensemble. Mais là, on rejoint plus un corpus de discours qui serait là, du coup, une espèce de forme culturelle qui tenterait en quelque sorte de rendre compte à la manière d'un paradigme, au fond. Et là, il y a une espèce de flottement entre les deux. Mais ce que j'ai proposé, du coup, c'est que la notion de web collaboratif ou la notion aujourd'hui d'économie collaborative, elle constituerait en ce sens-là une espèce de forme culturelle, mais une forme culturelle dont on pourrait clairement identifier et mesurer l'effectivité dans un certain nombre de domaines aujourd'hui de production d'activités humaines. Et notamment, quand je parlais tout à l'heure de la transformation d'usagers amateurs en producteurs, la transformation d'activités productives salariées vers du freelance, la promotion générale qu'elle fait de la figure de l'entrepreneur, voire de l'entrepreneur de soi.
Si je peux me permettre, on est loin d'une autre
vie. Exactement. Voilà. C'est ça. Voilà. Mais il resterait néanmoins à éclaircir cette imprécision entre forme culturelle isolée et puis espèce de la forme culturelle plutôt en termes de doctrine, parce que les deux sont utilisés. Voilà.
Bon, bah vas-y, parce que sinon je vais la reprendre.
Là, j'avais une question par rapport au lien qu'il n'y a pas entre les travaux de Gardin, si vous êtes au courant, et justement l'ouvrage dont vous avez parlé, les auteurs de 1978, sur capitalisme et industrie culturelle, avec chez ces auteurs une volonté un peu de modéliser les formes de marchandisation de la culture, donc c'était l'éditorial, le flow.
Oui.
Et avec toujours, du côté de la théorie des industries culturelles, une volonté de penser l'évolution de ces formes de marchandisation, comme vous l'avez dit, qui sont jamais abouties finalement et qui sont peut-être tout le temps en évolution, entre guillemets. Mmh. Avec aujourd'hui le fait qu'on paye finalement, on l'a dit tout à l'heure, hein, plus pour l'accès au contenu, plus pour des abonnements téléphoniques. Internet et des appareils électroniques plus que les contenus en eux-mêmes comme dans le modèle éditorial. Est-ce que je me demandais si Garnham, il y a des travaux qui portent sur cette modélisation?
Oui, d'après ce que j'ai lu, d'abord ce qu'il faut voir, c'est que Garnham travaille avec Bernard Miège, entre autres, mais aussi avec Matlard, même si Matlard était moins intéressé par cette question-là, dès le début des années 80. Et en fait, une des premières traductions de travaux de Garnham en français, c'était dans le cadre du rapport technologie, culture et communication que Yves Sturdze et Armand Matlard avaient dirigé et remis au gouvernement Mauroy en 82-83. Et donc, ce sont des gens qui travaillent ensemble, qui se connaissent, hein, qui se voilà avec Gaëtan Tremblay aussi, voilà, il y a une ce sont voilà donc là dessus et Garnham reprend, traduit, discute de ces modèles. Alors c'est pas ça devient une préoccupation, je dirais, importante pour cette école de l'économie politique des industries culturelles en France vers la fin des années 80 et au cours des années 90. Ce sera moins le cas pour Garnham, mais effectivement là-dessus, oui, il n'y a pas à ma connaissance, en tout cas, de réfutation là-dessus. Il écrit en 98, il se réfère au modèle du courtage que Pierre Meuglin a proposé. Enfin, donc il y a plutôt des échanges je dirais, cordiaux, et, mais sans que ça ne soit nécessairement son dada, entre guillemets. Voilà. Bah, en tout cas, parce que je dis ça parce que il me semble, alors peut-être qu'Éric, tu seras, je sais pas comment tu vois la chose, mais il me semble que cette question-là des modèles socio-économiques est devenue un petit peu... il y a un moment où c'est devenu presque obsédant vers la fin des années 90, et puis au fond, la critique qu'on a pu faire à ces travaux, c'est de s'intéresser davantage à la modélisation que à la question qui finalement les avait amenés à cette question de la critique des industries culturelles dans une première place. Mais bon, je crois que...
Oui, c'est vrai. Mais enfin bon, je ne vois pas. J'ai mis 10 ans à m'y intéresser. Ouais. Mais bon, peut-être revenir, tu y as fait à allusion, en fait, il y a en effet chez Garna, mais chez un certain nombre d'autres penseurs aussi, dits progressistes, l'idée pendant très très longtemps du rôle émancipateur de l'État, en fait. Mais d'après ce que je comprends, on est plutôt là dans une pensée un peu désabusée par rapport à celui-ci. Mais plus précisément, aujourd'hui, par exemple, à l'échelle internationale, la BBC reste souvent considérée comme un modèle à plusieurs titres. Mm. Est-ce qu'il porte un jugement aujourd'hui sur l'évolution de l'organisme de radiodiffusion publique britannique? En quel terme, si c'est le cas?
Oui, alors là-dessus, il y a eu de multiples engagements de sa part en faveur de la défense du modèle du BBC, notamment encore récemment, après 2010, lorsque le gouvernement Cameron a en partie accompli ses promesses, les promesses vis-à-vis de News Corporation, hein, qui était le vieil Australien, comment s'appelle-t-il,
Murdoch
qui tapait tellement fort sur la BBC, à ma connaissance, curieusement, Garnham, on m'a rapporté une conversation qui n'était pas à proprement parler une déclaration, je dirais, officielle de Nicholas Garnham, mais où il aurait dit que très clairement, dans ses écrits, il y a une défense très longue, enfin, tout au long des années 80, du moins, du modèle de la télédiffusion publique. Il en serait arrivé à la conclusion que ce modèle-là était en quelque sorte un accident historique. Un accident historique d'une certaine manière étant souhaitable, puis après, quelle est la valeur qu'on peut donner à ce souhaitable, étant donné que lui-même a transité là-dedans, et a effectivement, c'est là qu'il a eu... Voilà, c'est sur cette institution qu'il a compté pour avoir ses propres ressources, entre guillemets, et puis pour avancer dans son propre parcours. Mais effectivement, c'est une question importante de savoir la valeur qu'on peut prêter à cette idée-là de la télédiffusion publique comme une sorte d'accident historique. Ça c'est un premier point que je voulais dire. Après, le deuxième point, c'est une petite citation là que j'ai retrouvée et qui rejoint un autre point que tu disais tout à l'heure, mais aussi ce que tu viens de dire. Ce n'est pas celui-là. C'est l'idée. Bon, je ne l'ai plus en tête, mais bon, Garnamdi, on peut ne pas aimer les médias de masse, et notamment aussi bien une critique finalement de droite par rapport à la BBC qu'une critique plutôt progressiste par rapport aux médias de masse dominants commerciaux. On peut ne pas aimer les médias de masse, dit-il, mais il dit avec dans le contexte économique actuel, sauf à avoir une augmentation très sensible du financement public des médias, on ne peut pas imaginer une profusion de mini-médias. Alors, il ne précise pas si c'est de mini-médias d'ordre associatif, d'ordre public, d'ordre privé. On se doute que ce n'est pas forcément le troisième. Mais il me semble que c'est une remarque intéressante. Une remarque intéressante, notamment parce que, au fond, si la BBC est un modèle historiquement exceptionnel ou accidentel ou peut-être même anachronique, ce qu'il veut dire forcément par là, c'est notamment parce qu'il y a ce déploiement de ressources publiques encore aujourd'hui et encore important, qui fait qu'effectivement existe encore aujourd'hui. Donc là-dessus, je suis un petit peu tiraillé entre comment comprendre son positionnement par rapport à ça. Voilà. Et notamment par rapport au fait que il en arrive à cette résignation, à cette position un peu désabusée, tout en constatant par ailleurs que l'État, la puissance publique, que ce s'agisse au niveau réglementaire, au niveau de subventions accordées pour les infrastructures, etc., ou qu'il s'agisse de l'exemple de la BBC, reste encore quand même un acteur très très important. Je pense que c'est encore le cas ici. Moi, j'ai le peu de temps, j'ai lu deux, trois petites choses depuis que je suis arrivé, et je suis tombé sur 4 ou 5 attaques frontales contre la Canadian Broadcasting Corporation, la CBC, c'est ça, qui, selon les journaux que j'achetais complètement hasard, ne connaissant pas la presse canadienne, mais mobilisait beaucoup de critiques du fait qu'ils seraient en position de concurrence déloyale, qu'ils développeraient un secteur numérique qui serait là encore abusivement en concurrence avec le secteur privé. Donc, bon. De ce point de vue-là, sa position, elle est curieuse, parce que c'est ce que je disais en conclusion. Il me semble que le rôle de l'État, il est encore extrêmement puissant, et que là, la résignation de Garnham, dans ce cas, ne peut s'expliquer que parce que, au fond, cette promesse d'une alliance et de la possibilité de se saisir de l'État ou d'institutions publiques, il n'y croit pas parce qu'au fond, il observe que cette bataille-là a été perdue, ou au moins temporairement perdue. C'est plutôt comme ça que je le vois. Oui, c'était pas là où il évoquait ces différents acteurs. Ce n'était pas pour dire qu'ils étaient forcément directement favorisés par l'État, mais qu'ils devenaient des acteurs centraux, de plus en plus centraux dans le développement des industries culturelles, des industries.
Parce qu'il y a des travaux de Marc Rabouin ici. Il y a une sorte de Thierry Bédel aussi en France qui voit notamment à partir des années 80, il parle d'une redéfinition du rôle de l'État qui n'est plus un État animateur mais plutôt un État accompagnateur.
Oui.
Où son but va être plutôt de favoriser l'innovation et l'entreprise.
Oui.
Avec toute une série de discours justement sur la compétitivité technologique et ainsi de suite.
Oui.
On retrouve ça chez Garnham.
Oui, enfin, on retrouve ça notamment dans sa critique du paradigme des industries créatives et qui, au fond, reprend mot pour mot ce que vous venez de me dire, hein, à savoir que l'État doit être présent en tant que force, finalement, permettant d'identifier les acteurs non étatiques, supposément, qui doivent bénéficier de soutien, qu'il s'agisse de soutien financier ou de labellisation, pour augmenter l'avantage compétitif de la nation ou de la région. Mais au fond, je suis assez sceptique, et Garnham est très sceptique par rapport à la réalité d'un désengagement public, oui, mais un désengagement public qui est désengagement du point de vue de la culture dans son rôle social, dans son rôle, Susan Galloway parle de son rôle de la culture, le rôle social et démocratique de la culture. Or, même s'il y a eu des engagements, il y a par ailleurs des mécanismes de redistribution encore, et qui, dans cette perspective-là des industries créatives, du moins en France, mais dans d'autres pays. Je ne connais pas moins la situation ici, mais en termes de recherche et développement, en termes de programmes donc d'impulsion d'argent public, en termes de dépenses infrastructurelles, et ça, bien sûr, ça ne se compte pas simplement aux 2 dernières années. On parle pour la fibre optique de tout un de réalisations qui sont sur les 30 dernières années. Bon, l'État, on ne peut pas dire que du jour au lendemain il est cessé de jouer un rôle moteur dans ces secteurs-là. Pas ce que tu en penses, Eric, mais...
C'est sûr, ici, par exemple, l'État joue un rôle central, en fait, à de nombreux titres par rapport aux questions des industries culturelles. Par exemple, c'est grâce largement à des agences telles que Téléfilm Canada au niveau fédéral ou la SODEC au niveau provincial que la production audiovisuelle au Québec et au Canada peut exister, en fait, parce qu'il n'y a quasiment pas... Peut-être pas du tout d'ailleurs de production cinématographique, télévisuelle qui soit rentable sur les marchés ici, aussi bien francophones qu'anglophones. Donc de ce point de vue-là, mais on est tout à fait dans un état. En fait, le basculement a lieu dans les années 80, à partir du moment où d'ailleurs la société Radio-Canada, ou CBC en anglais, est progressivement, en fait, voit ses fonds publics diminuer. Au profit justement du financement de Téléfilm Canada, qui vise à favoriser justement la production privée. Mais la production privée, la production cinématographique et télévisuelle privée, en fait, elle existe grâce aux fonds publics. Et d'un autre côté, en fait, au Québec et au Canada, il est extrêmement difficile d'envisager véritablement un secteur qui soit complètement privé et qui soit, j'allais dire, marqué par une forte rentabilité de par l'étroitesse des marchés. Donc, de ce point de vue-là, le rôle de l'État reste considérable, mais bon, en plus, nous, il prend deux formes parce qu'il y a à la fois l'État fédéral et puis il y a aussi, avec les revendications nationalistes au Québec, l'émergence et le développement à partir des années 60 d'un appareil étatique provincial, donc d'un double appareil étatique qui se fait aussi à certains moments concurrence sur le secteur des communications. Mais on est en effet, on est très très loin, très très loin des années 70. Ça me permettra, avant de donner la parole à Fabien, là, d'ailleurs, de refaire un lien par rapport au début de ton intervention, puisque les études en communication se développent aussi au Québec et au Canada. Surtout à partir des années 70, mais alors le contexte est également extrêmement différent d'aujourd'hui, parce que, en fait, dans les années 70, je crois que j'avais donné à lire un texte, on en a parlé la première séance, un texte de Serge Proulx, et Serge Proulx qui met de l'avant la communication alternative en disant qu'en fait, bon, le vocable, c'est appréhender les questions de communication d'un point de vue critique, mais critique à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi en termes de formation, parce que, en fait, les professionnels qui doivent être formés au sein des universités en communication, ce sont des gens qui doivent
créer les moyens de communication alternatifs de demain. Donc en fait, on est complètement dans... Alors quand, je crois que c'est Michel Sénécal qui montre bien qu'à partir des années 80, il y a un basculement total où en fait, les études en communication, la question de la critique, la question de l'alternatif, ça perd complètement de son importance. Et à partir des années 80, en fait, la communication qui est développée est beaucoup plus vue sur le mode de la gestion, en fait. Donc on change complètement, on va dire, on change de paradigme, voire éventuellement au-delà, en fait, dirait Foucault, d'épistémé, en fait. Et au jour d'aujourd'hui, ça paraîtrait même quelque chose d'assez... Je n'ai pas dit que ça n'existe plus, mais... C'est devenu extrêmement évanescent de considérer que les études en communication visent avant tout à transformer nos sociétés. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent nos jeunes collègues ici, mais... Oui, Fabien.
J'avais une question. Vous dites que dans l'âme, on voit souvent un point dans le mot, il semble s'être résigné avec son... fait une analyse complexe dans ses multiples dimensions du discours des cultural studies, montre vraiment en fait le point d'achoppement des cultural studies, notamment dans leur prétention et leur volonté d'être capable de comprendre comment il pourrait y avoir des transformations sociales émancipatoires à travers les formes culturelles. Donc, montre qu'en fait, ça, ça fait tout simplement partie de la contradiction fondamentale nommée par Garnham, comme quoi, en fait, la création de nouveautés, de différences, participe aussi à une sorte d'homogénéisation dans la société capitaliste. Donc, ça, c'est bien compris que c'est la contradiction que Garnham voit, qui est productrice, en fait, de la société capitaliste actuelle. Il dit, vous dites, que cette façon de voir les choses devrait pair en fait de sa pertinence et qu'on devrait remettre à profit en fait la lutte des classes dans une perspective plus marxiste au détriment de cette voie de cultural studies. Or, maintenant, on dit d'une part il y a ça, d'autre part Garnham est résigné complètement, pratiquement résigné, sauf peut-être à la fin de votre exposé où vous disiez qu'il y avait une voie peut-être. Donc j'aimerais, en fait ma question c'est, dans le fond, Garnham, comment, s'il s'inscrit encore dans une perspective critique, ce qui est sûrement le cas, compte tenu que c'est un économie politique des médias, est-ce qu'il voit encore une voie émancipatoire si l'État ne peut plus jouer ce rôle-là, si la démocratie dans le secteur public ne peut plus jouer ce rôle-là non plus, d'après les discussions qu'il y a? Donc, comment voit-il la capacité émancipatoire sociale?
Écoutez, c'est une très bonne question, et à vrai dire, là où j'ai pas eu le temps là, de développer suffisamment l'apport de son ouvrage « Emancipation, the Media and Modernity », où on a véritablement un retour, je dirais, plus en profondeur à la fois sur l'œuvre de Marx, mais aussi sur... finalement toute une tradition philosophique qui visiblement l'inspire, mais qui était plus sous-jacente, je dirais, dans les travaux antérieurs de Hegel, de Kant. Et alors, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que du coup, ça permet de comprendre un petit peu le parcours qui effectivement est un parcours, comme je l'ai dit, de critique vigilante. J'allais dire vigilante, presque prudente dans sa vigilance, vigilante d'elle-même aussi. Et alors, par rapport à la manière dont il envisage ou propose finalement la solution, hein, si on veut dire une solution politique, il me semble que plus ses travaux avancent, enfin plus il avance son âge aussi, plus il est, je dirais, il voit les limites peut-être du combat politique. Et vraisemblablement, c'est la manière dont je l'interprète. C'est pour cela aussi qu'il décide notamment d'entrer dans cette controverse avec les cultural studies pour essayer de un peu à la manière d'Adorno dans un temps passé de montrer finalement le lien important entre théorie et praxis et que les étudiants, les chercheuses, les chercheurs qui partent dans cette direction-là, finalement se fourvoient et, il le dit lui-même, font du tort au combat politique dont ils sont pourtant imprégnés et qui les inspirent, pour les raisons que vous venez de dire, qu'on vient de dire. Mais cependant, les questions que vous me posez là, moi, j'ai envie d'aller les lui poser directement parce que il se trouve que j'habite en France, à proximité d'un endroit où il a une résidence secondaire. J'ai découvert ça alors que j'étais en train d'écrire finalement. Donc, j'ai retrouvé son numéro sur les pages blanches françaises et j'ai envie de lui dire, mais voilà. Comment est-ce qu'on sort de cette contradiction et puis par la même occasion essayer de mettre la main sur ce pamphlet Révolution ou Réformiste dont il doit bien avoir une copie quelque part, au moins lui. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels je suis un peu sur ma faim aussi.
C'est le retour à une conscientisation
oui.
Des travailleurs qui doivent de cette conscientisation-là. Élaborer un sentiment de colère et un désir d'émancipation, ça c'est leur retour à la thèse marxienne.
Oui.
Mais peut-être que c'est pas cette voie-là qui veut développer. Mais ça c'est une forme de d'espoir qu'on pourrait avoir, mais c'est loin d'être dans son discours parce qu'on voit que, en tout cas, de ce que je comprends, on voit que la spider web, la grande toile en fait qui dépeint nous empêche de penser peut-être une dynamique dialectique par rapport à une
réalité
qui serait à dépasser. Ça, j'ai l'impression que c'est un peu perdu dans son analyse qui est plus de plein de ramifications qui empêchent de penser cette.
Il me semble aussi, c'est un des endroits où je l'amène dans ce texte, à savoir que sur cette question-là, les travaux de Nixon pour repenser du coup à l'étape d'après à laquelle effectivement on doit, à mon avis aussi, avancer. Il y a comme ça des espèces de points qui ne sont pas pensés jusqu'au bout et qui du coup, comme ça, comme vous dites, nous donnent l'impression d'un peu d'être embourbés par moment puis de se retourner. Alors quand moi, c'est vrai qu'il y a eu des moments où j'ai dit, bon, assez de se retourner vers Kant. Les mêmes questionnements. Du coup, j'avais dans l'idée de compléter mon texte par une interview et une interview qui notamment porterait en partie sur ces questions-là. Or, bon, comme j'ai déjà le double de mon nombre de caractères autorisés, je doute qu'il veuille bien. Mais qui sait ? Après, ça peut être lui ailleurs. Mais en tout cas, ce sont des questions auxquelles je suis vraiment sensible aussi.
Merci.
Merci à vous.
Peut-être dans la foulée, oui. Alors, est-ce que ce n'est pas une pensée qui est très, très, très structuraliste, en fait, dans une certaine mesure, et pas tellement constructiviste, en fait, au sens... alors que, par exemple, bon, il y a des critiques qui ont été portées nombreuses à son sujet, mais alors que, par exemple, la pensée de Bourdieu est une pensée qui essaye à la fois d'être constructiviste et structuraliste, en fait, ce qu'il appelle le structuralisme constructiviste, en fait... Mais je pose la question haute voix, hein, parce que je n'avais pas réfléchi jusque-là. Ce qui renverrait d'ailleurs à un texte récent. Il faut que je me souvienne des auteurs. C'est Franck Rebillard et Maigret.
Oui.
Sur justement le fameux dialogue possible éventuellement entre cultural studies et économie politique. Mais où ils mettent l'accent, c'est qu'il y a une dimension structuraliste et que la notion même, j'en ai parlé dans le séminaire, en fait, la notion même de contexte n'a pas exactement le même sens parce qu'en économie politique, le contexte renvoie à des éléments qui sont très macro-structurels,
Alors que la notion de contexte en culture studies renvoie à des éléments qui sont souvent beaucoup plus micro. Et déjà, essayer de faire dialoguer ces deux perspectives-là, ne serait-ce que d'un point de vue épistémologique, de ce point de vue-là, ça pose question, en tout cas. Et d'ailleurs, et puis j'en profite, et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me frappe, c'est qu'en permanence, et j'en fais partie des gens qui appellent à un dialogue, et évidemment, le dialogue, parmi les gens qui sont plutôt en économie politique, on renvoie toujours ça à Williams. Hein, bon, oui, mais sauf que Williams, c'est pas ce qu'il y a de plus récent que le Cultural Studies.
Non, tout à fait. Oui, je crois que tu as raison, et c'est d'ailleurs assez étonnant, parce que étonnant à plusieurs titres, parce que Garnham vient de la pratique, de la production, donc comme je disais, de la réalisation du montage, mais il n'endosse pas, ou pour ainsi dire, très peu, les méthodes ou les habits de la sociologie du travail, quand bien même ces propositions-là sont au cœur de ces propositions. Il se retourne beaucoup plus volontiers vers l'histoire, en fait. Vers des pratiques de recherche, effectivement. Alors bien, il y a des choses où ils rentrent dans le détail, mais pas à la manière que tu dis. Ils s'appuient en partie sur des études, notamment des études effectuées par Schlesinger et d'autres chercheurs en Grande-Bretagne, mais sans trop s'y aventurer lui-même. Donc je crois que de ce point de vue-là, tu as raison. Et alors, s'agissant de cette opposition, effectivement, il va vers, il retourne, oui, vers Williams, lui également, hein, tout à fait, pour proposer que là se situerait en fait l'espèce de chemin de révisionnisme au fond des cultural studies qui se détourne de la bonne branche, en fait. Bon, je crois que...
J'aurais peut-être une dernière.
Je te dis, alors, oui, hein, vas-y, je t'en prie.
Pendant que j'y suis. Parmi les mutations des médias et de la culture qui me semblent importantes, il y a quand même la dimension... c'est pas non plus nouveau, mais parfois, ce qui est nouveau n'est pas tellement le phénomène que son ampleur, en fait. Mm-hmm. Je pense à la question de la transnationalisation, en fait. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui... on en a parlé au séminaire, la question de l'oligopole à Froge, en effet, c'est qu'en fait, les industries culturelles sont à la fois caractérisées par des situations oligopolistiques et puis aussi par l'existence d'un certain nombre de petites entreprises dans un certain nombre de secteurs, d'ailleurs souvent les secteurs les plus à risque, hein, les moins rentables. Mais peut-être que l'un des phénomènes qui est nouveau, alors on s'en rend compte ici au Canada, c'est qu'on a une industrie culturelle qui a longtemps été extrêmement protégée, en fait, avec un protectionnisme très fort. Un nationalisme canadien au niveau de tout ce qui est propriété médiatique. Alors qu'en fait, la question des formations d'oligopole, s'il y a peut-être quelque chose de nouveau à notre époque, c'est leur dimension carrément transnationale. Des entreprises comme Google, Apple, Facebook ont une dimension qui est, si ce n'est mondiale, en tout cas internationale. Est-ce que cette tendance, qui est relativement nouvelle en tout cas... Est-ce que c'est quelque chose que Garnham intègre dans son analyse ou pas ?
Alors, là, en toute honnêteté, je ne vois pas... du point de vue lorsqu'il évoque les investissements, l'importance des investissements, etc., à consentir... ça pointe vers cette question-là, je dirais par logique du point de vue des économies d'échelle, mais c'est pas forcément quelque chose que j'ai retenu de ces travaux. Ce que je peux dire, c'est que ces recherches prend de part les collaborations qu'il y avait notamment avec les chercheurs français, les chercheurs italiens, les états-uniens. Il n'est pas non plus dans une perspective purement britannique, sauf lorsque il est sur des questions qui relèvent typiquement de la création de la quatrième chaîne ou de la fusion entre BSB et Sky. Mais je ne peux pas trop dire que ce soit là un point sur lequel il est énormément travaillé. Après, ce que j'ai essayé de montrer dans ce texte, c'est comment ces travaux sont utiles aujourd'hui, et notamment, vous avez en France, Nikos Smirnaios, qui est à l'Université de Toulouse 2, qui vient de publier, qui va très prochainement publier un livre spécifiquement sur cette question-là de la formation du nouvel oligopole d'Internet. Et il mobilise fortement les travaux de Garnham, notamment des travaux qui remontent jusqu'à 79. Dans ce sens-là, j'ai essayé de montrer aussi comment c'est... Après, est-ce que... ça devient évident. Comme tu dis, avec ces acteurs du web, ça devient évident. Mais après, l'internationalisation, c'était déjà un phénomène qui était, même dans le bouquin de 78, il montrait les limites, effectivement, comme tu dis, de la transnationalisation, mais des domaines où c'était déjà bien enclenché. Donc, je ne sais pas quoi rajouter de plus, si ce n'est qu'effectivement... Je ne pense pas que c'était... Il y aurait peut-être des choses à dire à propos de sa critique de la notion de société de l'information à cet égard-là, où il a effectivement insisté sur un certain nombre de limites évidentes à cette notion, reliées à ce que tu disais, à savoir l'importance de marchés encore nationaux. Dans quelle mesure aujourd'hui, ça c'est un point qu'on observe, enfin qu'il faut qu'on continue d'observer aujourd'hui.
Bon, j'en ai peut-être encore une autre. Je me censurerais s'il y a une autre question dans la salle. C'est le moment ou jamais, hein, comme on dit. C'est comme lors des mariages. On prend la parole maintenant ou plus. Bon, alors. Ah!
C'est une critique que Garnham fait finalement par rapport à la proposition selon laquelle la notion d'idéologie serait abstraite finalement des conditions sociales et historiques de sa production. Hein. Et ce qu'il dit, c'est qu'on a beaucoup de travaux donc dans ces années 60, 70, 80 qui vont chercher au fond une idéologie abstraite, hein, qui n'est pas des discours, mais qui ne sont pas, je dirais, selon lui, analysés correctement du point de vue de leur dépendance, interdépendance avec les relations sociales de production matérielle. Et il a cette critique de dire qu'au fond, on a trois variantes de ces discours. D'une part, des discours qui placent l'espoir du côté, d'une époque anhistorique, en quelque sorte, dans les discours de sociétés de masse, une espèce d'espoir qui serait pré-industriel, une sorte d'âge d'or. On a les discours inspiré au fond de la psychanalyse lacanienne, avec l'idée de l'idéologie de sa résolution dans l'inconscient, Et le troisième élément qui distingue, écoutez, il faut que je retrouve ça parce que j'ai plus ça en tête. Comment c'est un petit peu. Ah oui, c'est. Vous l'aviez dit tout à l'heure, je crois. Oui, les futuristes. Les futuristes, au fond, là, ils renvoient, il me semble, à cette vision un peu postmoderniste, au fond, de. Me semble-t-il, encore, il faudrait que je retrouve ce point-là précisément. Je ne sais plus à quel moment exactement cela fait. Mais là, j'avoue que je suis un petit peu. Je ne sais plus exactement à quel endroit c'est. Donc, ce que je pourrais faire, c'est vous laisser d'autres aussi, bien sûr, ma carte.
Pour... Je crois que je n'ai pas pris en note. Et, en effet, je me souviens des trois. Enfin, je vois les trois points.
Ouais. Oui, c'est ça. Contrer l'idéologie percée, les théories asociales et ahistoriques qui ne conçoivent plus la lutte contre des idéologies spécifiques, mais contre l'idéologie percée. Et pour lesquels le lieu de cette lutte est projeté soit en arrière dans un âge d'or, comme pour beaucoup de la théorie de la société de masse, et je pense que là, même s'il ne s'y réfère pas, il parle aussi, à mon sens, des travaux de Jenkins, une espèce de vision d'une culture pré-industrielle comme espèce de paradis perdu, soit en avant dans un futur utopique. Donc on retrouve autant du côté des discours du postmoderniste, mais aussi des discours de la société de l'information, soit vers l'intérieur au sein de l'inconscient, bon là sur des a priori des tendances qui sont plus inspirées de Lacan notamment, voilà. Alors bien évidemment là il se référait aussi au débat d'idées en partie propre au champ des études médiatiques mais aussi cinématographiques dans les années 70 notamment pour l'importance de Lacan. Bon, la revue Screen et dont sont issus aussi, ça demanderait une espèce d'histoire institutionnelle des sciences sociales en Grande-Bretagne, mais il faut bien évidemment voir que les tenants de Cultural Studies, quand on songe à Morley ou alors à Stuart Hall, sont aussi très inspirés par cette revue Screen contre laquelle Garnham est qui hérisse visiblement beaucoup le poil de Garnham, voilà, pour le dire gentiment.